Chapitre 13. Journal du docteur Seward. Nous décidâmes que les funérailles auraient lieu dès le surlendemain, afin que Lucie et sa mère fussent enterrées ensemble. Je m'occupai de toutes les lugubres formalités. Les employés de l'entrepreneur des pompes funèbres, je pus m'en rendre compte, étaient affligés ou dotés de la douceur obséquieuse de leur patron. Et même la femme qui procéda à la toilette mortuaire prit un ton à la fois confidentiel et professionnel pour me déclarer en sortant de la chambre de la pauvre Lucie « Elle fait une très belle morte, monsieur. C'est vraiment un privilège que de s'occuper d'elle. Ce n'est pas trop de dire qu'elle fera honneur à notre firme. » Van Helsing, je le remarquai, ne s'éloigna pas de la maison. Nous ne connaissions pas les parents des défuntes, et comme pendant la journée du lendemain, Arthur devait s'absenter pour assister à l'enterrement de son père, il nous fut impossible d'avertir aucun membre de la famille. Van Helsing et moi prîmes donc la responsabilité d'examiner tous les papiers que nous trouvâmes. Le professeur voulut tout particulièrement voir lui-même ceux de Lucie. Je lui en demandai la raison car je craignais que, étant étranger, il ignorât certains détails de la loi anglaise et que, de ce fait, il pût nous entraîner en certaines difficultés. Vous oubliez, me répondit-il, que je suis docteur en droit aussi bien que docteur en médecine, mais la loi n'a que faire ici. Vous vous en rendiez parfaitement compte quand vous me disiez qu'il fallait éviter une enquête. Et encore, s'il ne s'agissait que d'éviter une enquête, nous trouverons peut-être d'autres documents, comme celui-ci. Tout en parlant, il avait pris dans son calepin les feuillets que Lucie avait gardés sur elle, puis que, dans son sommeil, elle avait déchiré. « Si vous pouvez apprendre qui est le notaire de feu Mrs. Westenra, écrivez-lui ce soir en lui envoyant tous les papiers concernant sa cliente. Quant à moi, je passerai toute la nuit, soit dans cette chambre, soit dans l'ancienne chambre de Miss Lucie, car il y a encore des recherches que je veux faire moi-même. Il ne faut pas que ce qu'elle aurait pu laisser soit découvert par des étrangers. » J'allais donc remplir la tâche qui m'était assignée et moins d'une demi-heure plus tard, j'avais trouvé le nom et l'adresse du notaire de Mrs. Westenra. Tous les papiers de la pauvre dame étaient parfaitement en ordre, ses volontés concernant les funérailles notamment y étaient clairement formulées. Je venais à peine de fermer le pli quand Van Helsing, à ma grande surprise, reprit-il quelques instants plus tard, « Je crois que nous pouvons aller au lit. Nous avons besoin, vous et moi, de repos, de sommeil. Demain, nous aurons beaucoup à faire, mais pour ce soir, c'est bien tout. Hélas. » Cependant, nous allâmes encore jeter un coup d'œil dans la chambre où reposait la pauvre Lucie. L'entrepreneur des pompes funèbres, désireux de ne rien négliger du travail que l'on attendait de lui, avait transformé la chambre en chapelle ardente. On y voyait une profusion de fleurs blanches qui tendaient à rendre le spectacle moins pénible autant que faire se pouvait. Le linceul recouvrait le visage de la morte quand le professeur en souleva doucement le bout. Tous deux nous fûmes surpris par la beauté des traits parfaitement éclairés par les grands cierges. Dans la mort, Lucie était redevenue aussi jolie que nous l'avions connue avant sa maladie. Les heures écoulées depuis qu'elle avait rendu son dernier soupir n'avaient fait que lui rendre cette beauté de la vie, au point que, réellement, je doutais de me trouver devant un cadavre. Le professeur, lui, semblait réfléchir gravement. Il ne l'avait pas aimée comme je l'avais aimée, et les larmes ne lui remplissaient pas les yeux. « Attendez-moi ici, » me dit-il soudain. Et il quitta la chambre. Quand il revint, il tenait à la main des fleurs d'ail qu'il avait prises dans une caisse que l'on avait déposée dans le corridor, mais qui n'avait pas encore été ouverte. Il plaça ses fleurs un peu partout parmi les autres, de même qu'autour du lit. Puis il prit sous le col de sa chemise une petite croix d'or qu'il mit sur les lèvres de la morte. Le linceul recouvrant à nouveau le visage, nous nous retirâmes. Je me déshabillais dans ma chambre quand, frappant à la porte et entrant presque aussitôt, Van Helsing me dit « Demain, je voudrais que vous m'apportiez avant le soir des instruments pour autopsie. »« Ah, nous devrons procéder à l'autopsie ?»« Mais oui et non, je veux, il est vrai, faire une opération, mais pas celle à laquelle vous pensez. »« Laissez-moi vous expliquer, seulement que personne n'en sache rien, n'est-ce pas ?»« Je crois qu'il nous faut lui couper la tête, et aussi... » lui enlever le cœur. Quoi, vous, un chirurgien, seriez-vous choqué? Vous que j'ai vu opérer d'un cœur si courageux et d'une main si ferme des malades dont la vie tenait à un fil, cependant que tous vos condisciples frémissaient. Oh, Pardonnez-moi, je ne dois pas oublier, mon cher John, que vous l'aimiez. Aussi est-ce moi qui opérerai, vous m'assisterez. J'aurais désiré le faire dès ce soir, mais cela est impossible à cause d'Arthur. Il reviendra ici, demain, après l'enterrement de son père, et évidemment, il voudra encore la voir. Mais quand on aura fermé le cercueil et que tout le monde dormira dans la maison, nous viendrons, vous et moi, rouvrir le cercueil pour faire l'opération. Puis, nous remettrons tout en place de sorte que personne ne s'apercevra de rien. Mais, vraiment, à quoi tout cela peut-il servir ? La pauvre enfant est morte. Pourquoi lui ouvrir le corps sans nécessité ? Et s'il est inutile de faire une autopsie, si cela ne peut rien apporter ni à la morte, ni à nous, ni à la science, ni même à la connaissance humaine, à quoi bon ? Ce serait monstrueux. Il me mit la main sur l'épaule et me répondit, la voix pleine de tendresse, « Mon cher John, je comprends votre chagrin et je vous plains de tout mon cœur. Je vous aime d'autant plus, d'ailleurs, que, si je le pouvais, je ferais mienne l'épreuve que vous devez supporter. Toutefois, il y a des choses que vous ignorez encore, mais que vous connaîtrez bientôt, et vous me bénirez alors de vous les avoir fait connaître, bien que ce ne soit pas des choses fort réjouissantes. John, mon garçon, voilà des années que vous êtes mon ami. M'avez-vous jamais vu remplir une action sans avoir pour cela une raison péremptoire ? Je puis me tromper, je ne suis qu'un homme, mais je crois à tout ce que je fais. N'est-ce pas justement pour cela que vous m'avez appelé ici ? Oui. N'avez-vous pas été étonné, scandalisé, quand j'ai empêché Arthur d'embrasser sa fiancée alors qu'elle mourait et l'ai brusquement éloigné du lit ? Oui. Et pourtant, vous avez vu comme elle m'a remercié en me regardant de ses beaux yeux qui allaient se fermer à jamais en me parlant de sa voix si faible et en portant à ses lèvres ma vieille main rugueuse. Oui. Et ne m'avez-vous pas entendu lui jurer de faire ce qu'elle me demandait ? Oui. Eh bien, j'ai une bonne raison maintenant d'agir comme je veux agir. Vous avez eu confiance en moi pendant de nombreuses années. Vous m'avez cru durant les semaines qui viennent de s'écouler, alors qu'il se passait des choses si étranges que le doute de votre part eût été permis. Accordez-moi de me croire encore quelque temps, mon cher John. Si vous vous y refusez, je devrais bien vous dire dès à présent tous mes soupçons, mais je me demande si cela est souhaitable. D'autre part, si je commence à travailler sans avoir la confiance entière de mon ami, et que je l'ai ou non, je veux vérifier par l'expérience si je me trompe ou si je suis dans le vrai, je travaillerai le cœur lourd et avec le sentiment d'être seul, alors que j'ai un tel besoin d'aide et d'encouragement. Il s'interrompit un moment, puis ajouta, « Croyez-moi, mon cher John, des jours terribles nous attendent. Ne soyons à deux qu'un seul homme. » pour mener à bonne fin ce qu'il faut à tout prix entreprendre. Je lui pris la main et lui promis de lui garder toute ma confiance comme par le passé. Je tins ma porte ouverte pour le laisser sortir et je le suivais des yeux jusqu'à ce qu'il fût entré dans sa propre chambre et eût fermé sa porte. À ce moment, je vis l'une des servantes traverser le palier et elle ne me vit pas car elle me tournait le dos et entrer dans la chambre où reposait Lucie. J'en fus profondément touché. Le véritable attachement est si rare, et nous sommes si reconnaissants à ceux qui en font preuve spontanément envers les êtres que nous aimons. Voilà une pauvre fille qui surmontait l'horreur que sans nul doute lui inspirait la mort pour aller veiller auprès du cercueil où dormait sa jeune maîtresse, afin que le pauvre corps ne restât pas seul avant d'être porté au lieu du repos éternel. J'avais dû dormir longtemps et profondément car il faisait grand jour quand Van Helsing m'éveilla en entrant dans ma chambre. Il s'approcha de mon lit et me dit aussitôt « Inutile de m'apporter les instruments pour l'autopsie, je renonce à le faire. Pourquoi » « Pourquoi ? » demandai-je encore tout impressionné par ce qu'il m'avait dit la veille et fort étonné de ce soudain revirement. « Parce que, » fit-il sur ce ton grave que les événements des derniers jours avaient rendu habituel chez lui, « parce qu'il est trop tard ou trop tôt. Regardez, il me montra la petite croix d'or. On l'a volée pendant la nuit. » Comment cela voler ? Puisque vous l'avez, je l'ai reprise à la malheureuse créature qui l'avait volée, à une femme qui dépouille les morts et les vivants. Certes, son châtiment viendra, mais je n'y serai pour rien. Elle ignore ce qu'elle a fait au juste, et l'ignorant, elle est donc seulement coupable d'un vol. Là-dessus, il sortit, me laissant seul. L'eussé-je voulu, serait été en vain, je le savais, que j'aurais cherché à éclaircir ce nouveau mystère. La matinée fut évidemment lugubre et me parut longue. Vers midi, pourtant, le notaire arriva. Monsieur Marquand de l'étude Woolman Sons, Marquand et Lidderdale. C'était un homme fort aimable qui nous remercia pour tout ce que nous avions déjà fait. Il se chargea de toutes les dernières formalités et jusqu'aux moindres détails. Durant le lunch, il nous répéta que Mrs. Westenra, avant de mourir, avait mis toutes ses affaires en ordre, et il nous apprit que, à l'exception d'une propriété du père de Lucie et qui, maintenant, à défaut de descendance directe, retournait à une branche lointaine de la famille, tous les biens, immobiliers et autres, étaient laissés à Arthur Holmwood. Lorsqu'il nous eut expliqué cela, il poursuivit « À dire vrai, nous avons essayé d'empêcher de telles dispositions testamentaires. Nous avons, entre autres choses, fait remarquer à Mrs. Westenra que certains événements imprévus pourraient laisser sa fille sans un sou vaillant ou l'empêcher d'agir en toute liberté le jour où elle envisagerait de se marier. Les choses entre elle et nous faillirent se gâter à tel point qu'elle nous demanda finalement si oui ou non nous voulions veiller à l'exécution de ses dernières volontés. Naturellement, n'ayant pas le choix, nous acceptâmes. Mais en principe, nous avions raison, et 99 fois sur 100, par la suite logique des événements, nous aurions pu le prouver. Je dois admettre toutefois que, dans ce cas particulier, toute autre forme testamentaire eût rendu impossible l'exécution de ses volontés, car, puisqu'elle devait mourir avant sa fille, cette dernière héritait de tous les biens, et n'aurait-elle survécu à sa mère que de 5 minutes seulement, et à supposer qu'il n'y ait pas eu de testament? En vérité, l'existence d'un testament était pratiquement impossible dans un cas comme celui-ci. On l'aurait considérée comme morte intesta. De la sorte, Lord Godalming, bien qu'il fût un ami si cher et fiancé de la jeune fille, n'aurait eu absolument droit à rien. Vraisemblablement, les héritiers, même lointains, n'auraient pas abandonné à un étranger pour des raisons sentimentales ce qui leur revenait légalement. Croyez-moi, messieurs, je me réjouis de ce résultat. Je m'en réjouis, vraiment. C'était sans nul doute un excellent garçon, mais qu'il se réjouit de ces détails auxquels l'intéressait sa profession, alors que le malheur qui arrivait tenait de la tragédie, voilà qui était un exemple du peu de sympathie et de compréhension que l'on rencontre chez certains hommes. Il ne resta pas longtemps avec nous, mais il nous dit qu'il reviendrait en fin d'après-midi pour rencontrer Lord Godalming. Sa visite, malgré tout, nous avait quelque peu réconfortés, puisqu'il nous assura que, quant à nous, nous n'avions à craindre aucun blâme au sujet de nos démarches depuis la mort de Mrs. Westenra et celle de Miss Lucy. Nous attendions Arthur à 5 heures. Un peu avant, nous nous rendîmes dans la chambre de la mort. C'était bien ainsi qu'on pouvait l'appeler, car maintenant, la mère et la fille y reposaient toutes deux. L'entrepreneur des pompes funèbres s'était surpassé. Le spectacle par trop lugubre de la pièce nous plongea dans un abattement que nous sentîmes insurmontable. Van Helsing exigea aussitôt que l'on remît les choses telles qu'elles étaient auparavant. Lord Godalming, précisa-t-il, allait arriver, et ce serait sans doute moins déchirant pour lui, si toutefois cela était possible, de ne voir ici que sa fiancée. L'entrepreneur des pompes funèbres feignit d'être scandalisé de sa propre stupidité, et il fit ce qu'on lui demandait. Quand Arthur arriva, la chambre était comme nous l'avions laissée la veille, avant d'aller nous coucher. Pauvre garçon. Dans son désespoir et après tant d'émotions, plus douloureuses les unes que les autres, il ne semblait plus être le même homme. Je savais qu'il aimait profondément son père, le perdre, et à ce moment, était pour lui un coup terrible. Il me témoigna autant d'amitié que de coutume, et il se montra poli, et même fort aimable envers Van Helsing. Mais il me parut un peu embarrassé. Le professeur, ayant sans doute la même impression, me fit signe de monter avec lui. Je voulus le quitter à la porte de la chambre, pensant qu'il préférerait être seul avec Lucie, mais il prit mon bras et nous entrâmes tous les deux en même temps. « Vous aussi, mon ami, vous l'aimiez, » me dit-il d'une voix étranglée. Elle m'avait tout raconté et aucun de ses amis ne lui était plus cher que vous. Comment pourrais-je vous remercier de tout ce que vous avez fait pour elle ? Maintenant encore, il m'est impossible de... » Il éclata en sanglots, jeta les bras autour de mes épaules et la tête sur ma poitrine. « Oh Jack, Jack, que vais-je devenir? Il me semble que j'ai tout perdu, que je n'ai plus au monde aucune raison de vivre. Je le consolai de mon mieux. Les paroles, en de telles circonstances, sont inutiles. Une poignée de main ou une main fortement appuyée sur l'épaule de l'ami dans l'affliction ou encore un sanglot se mêlant au sien, ce sont là des expressions de sympathie que le cœur reconnaît tout de suite. J'attendis que ses sanglots se fussent apaisés, puis je lui dis tout bas et doucement « Allons, venez la voir ». Nous nous approchâmes du lit et soulevâmes légèrement le drap du visage. Dieu, qu'elle était belle! Chaque heure qui passait semblait la rendre plus jolie. Non seulement cela m'étonnait, mais m'effrayait quelque peu. Quant à Arthur, je vis que le doute, l'angoisse le secouaient, et il se mit à trembler, comme s'il avait été pris de fièvre. Finalement, après être resté longtemps sans rien dire, il me murmura à l'oreille « Jack, est-elle vraiment morte ?» Il me fallut bien lui affirmer qu'il en était malheureusement ainsi, car je savais que le doute où il était, de toute façon, ne durerait qu'un moment, et je lui expliquai que souvent, après la mort, les traits du visage reprennent une expression à la fois douce et reposée qui rappelle celle de la jeunesse, et cela d'autant plus lorsque de longues souffrances ont précédé la mort. Mes paroles parurent le convaincre, et après s'être agenouillé un moment près du lit et avoir longuement contemplé la jeune fille avec amour, il se détourna. Je l'avertis encore que c'était le moment de lui dire adieu pour toujours, car on allait la mettre dans le cercueil, de sorte qu'il alla lui reprendre sa pauvre petite main, la porta à ses lèvres, puis se pencha pour lui baiser le front. Il se décida enfin à quitter la chambre, mais en regardant encore la chair défunte jusqu'à ce qu'il eût franchi la porte. Je le laissai dans le salon pour aller rejoindre Van Helsing. Celui-ci donna alors ordre aux employés de l'entrepreneur des pompes funèbres de monter le cercueil et de procéder à la mise en bière. Pendant ce temps, je répétais au professeur la question qu'Arthur m'avait faite. « Cela ne m'étonne nullement, » me dit-il. « Moi-même, un moment, j'ai eu un doute. » Au dîner, je remarquai que le pauvre Arthur s'efforçait de cacher sa douleur du mieux qu'il pouvait. Van Helsing, lui, était resté silencieux pendant tout le repas. Mais lorsque nous eûmes allumé nos cigares, il s'adressa à Arthur. « Lord ?»« Non, non, pas cela, pour l'amour de Dieu, » fit l'autre en l'interrompant. « Pas encore, en tout cas. » Pardonnez-moi, monsieur, je n'avais évidemment pas l'intention de vous blesser, croyez-moi, mais comprenez-moi, mon deuil est si récent. » Le professeur répondit sur un ton très doux. « Je vous donnais seulement ce titre parce que je ne savais comment vous appeler. Je n'aime pas vous appeler monsieur parce que j'ai maintenant beaucoup, beaucoup d'affection pour vous, mon garçon. Pour moi aussi, vous êtes Arthur. » Arthur tendit cordialement la main au vieux docteur. « Donnez-moi le nom que vous voulez, dit-il, mais j'espère que vous me considérerez toujours comme un ami. » Et laissez-moi vous le dire, j'ai beau chercher, je ne trouve pas les mots qui pourraient exprimer ma reconnaissance envers vous. Quelle bonté fut la vôtre pour ma pauvre chérie. Il se tut un instant, puis reprit. Je sais que cette bonté, elle la comprenait encore mieux que moi, et si je ne me suis pas conduit, comme j'aurais dû le faire à ce moment-là, vous vous souvenez? Le professeur fit de la tête un signe affirmatif. Je vous prie de me pardonner. La réponse de Van Helsing témoignait à nouveau d'une véritable sympathie. « Je sais, » fit-il lentement et avec calme, « qu'il était très difficile pour vous de m'accorder une entière confiance, car pour accorder sa confiance devant un geste aussi violent que celui que j'ai eu alors, il faut d'abord comprendre, et je suppose que vous n'avez pas... que vous ne pouvez pas encore avoir confiance en moi, car vous ne comprenez pas encore. Pourtant... il y aura encore bien des circonstances où j'aurai besoin de votre confiance, alors que vous ne comprendrez pas, que vous ne pourrez pas, que vous ne devrez pas encore comprendre. Toutefois, le temps viendra où cette confiance que vous me donnerez sera entière et complète, où vous comprendrez les choses comme si le soleil lui-même les illuminait. Alors, vous me bénirez d'avoir agi comme je l'ai fait pour votre bien, pour le bien des autres et pour le bien de la pauvre enfant que j'ai juré de protéger. Mais oui. « Mais oui, » répliqua Arthur, « je me fierai complètement à vous. Je sais que vous avez un cœur généreux et vous êtes l'ami de Jack, comme vous étiez pour elle un ami. Vous agirez ainsi que vous croyez devoir le faire. » Après s'être éclairci la voix à deux reprises, comme si chaque fois il avait été sur le point de parler, le professeur reprit finalement « Puis-je vous poser une question ?»«
Certainement. »«
Vous savez que Mrs. Westenra vous a laissé tout ce qu'elle possédait ?»«
Non, la pauvre chère dame. »«
Non. »
Je ne m'en serais jamais douté.
Et puisque, maintenant, tous ces biens vous appartiennent, vous avez le droit d'en disposer comme il vous plaît, je vous demande la permission de pouvoir lire tous les papiers, toutes les lettres de Miss Lucy. Croyez-moi, ce n'est pas par curiosité. J'ai pour cela une raison que, j'en suis sûr, elle eût approuvée. J'ai trouvé ces papiers et ces lettres, je les ai pris avant de savoir que désormais ils vous appartenaient comme tout le reste afin qu'aucune main étrangère ne pût s'en emparer, afin qu'aucun œil étranger ne pût, à travers les mots, pénétrer ses pensées. Je les garderai, si vous m'y autorisez, si vous-même ne les voyez pas maintenant, ce qui est peut-être préférable, je les garderai en lieu sûr. Rien de ce qu'elle a écrit ne sera perdu. Puis, quand le moment sera venu, je vous rendrai papier et lettres. Sans doute est-ce beaucoup vous demander, mais vous consentirez, n'est-ce pas? Par amour pour Lucie. Arthur répondit avec une franchise, une sincérité, où je le retrouvais.
Docteur Van Helsing, vous ferez en tout comme vous l'entendez. Je sais que, si elle était ici, ma pauvre Lucie approuverait mes paroles. Je ne vous poserai aucune question jusqu'à ce que vous jugiez bon de vous expliquer.
« Vous avez raison, » dit gravement le vieux professeur en se levant. « Nous aurons tous beaucoup à faire et nous aurons beaucoup de soucis, mais il n'y aura pas que des soucis. Encore qu'après cela, nous devions nous attendre à en connaître d'autres. Le docteur Seward et moi, et vous aussi, mon ami, vous plus que quiconque, oui, tous trois, nous traverserons bien des heures amères avant d'atteindre la quiétude. » Il nous faudra être très courageux, ne jamais penser à nous-mêmes et faire notre devoir. Ainsi, tout ira bien.
Cette nuit-là, je m'endormis sur un sofa dans la chambre d'Arthur. Van Helsing, lui, ne se coucha pas du tout. Il allait et venait comme s'il patrouillait dans la maison, mais il ne s'éloigna jamais de la chambre où Lucie gisait dans son cercueil que l'on avait tout parsemé de fleurs d'ail, lesquelles, contrastant avec le parfum des lys et des roses, répandait dans la nuit une forte odeur accablante.